vraisemblablement plus de 300 versions au cours de l'histoire et sur plusieurs continents. Alors j'aimerais accueillir notre experte en conte qui va nous en dire un peu plus sur toutes ces versions. Bonjour Gaëlle Rucois.
Bonjour Jean-Louis.
Alors Gaëlle, vous êtes diplômée de l'école de journalisme IEX. Aujourd'hui, vous êtes en charge de l'ASBL de Livre en Livre et depuis une dizaine d'années, vous êtes aussi conteuse pour des enfants défavorisés.
Tout à fait.
Donc plus de 300 versions. La plus ancienne semble dater de l'Antiquité égyptienne avec, pour principale similitude, un roi amoureux qui retrouve sa belle grâce à sa minuscule pantoufle égarée. On connaît également une version chinoise, datée de 850, où c'est un poisson et non des souris et une marraine la bonne fée qui aide Cendrillon à se préparer pour le bal. Le conte a ensuite traversé les siècles de façon orale. Parmi les versions les plus proches du conte, telles qu'on le connaît aujourd'hui, on trouve celle de Giambattista Basile, considéré comme le premier auteur à avoir réuni et mis par écrit ces légendes. Mais dès lors, on est loin du conte féerique animé par les studios Disney.
Oui, alors dans la version de Basilée, recueillie au début du XVIIe siècle, ouais. Cendrillon n'est pas vraiment la jeune fille naïve qui chante avec des petits oiseaux ou qui parle aux poissons. Mm-hmm. Cendrillon s'appelle Zezola.
Oui, donc ça n'a rien à voir avec Cendrillon.
Voilà, elle échafaude un plan avec sa gouvernante pour évincer sa méchante belle-mère. Mm-hmm. Donc elle va lui demander de prendre un vêtement dans une malle et va lui claquer le couvercle sur la tête en lui brisant la nuque. Alors le père se remarie alors avec la gouvernante qui va devenir sa nouvelle marâtre. Ouais. Celle-ci a 6 filles et ce sont elles qui vont lui empoisonner la vie. Donc c'est donc un des premiers points communs avec les versions actuelles, celle de la belle famille qui va persécuter la jeune fille.
D'accord. Alors Charles Perrault s'est également emparé de l'histoire et l'a réécrite, mais là c'était en 1697.
Alors en effet, la version de Perrault est celle qui se rapproche le plus du dessin animé de Disney qu'on vient d'entendre. Donc Charles Perrault est un homme de lettres français du siècle des Lumières, vous le connaissez. Il est connu pour avoir formalisé le genre littéraire du conte merveilleux. On y retrouve la gentillesse et le courage de Cendrillon face à sa méchante belle famille. Mais je dirais même que Perrault pousse ses valeurs encore plus loin, parce qu'à la fin du conte, Cendrillon, peu rancunière, pardonne tout et marie ses deux méchantes sœurs à de grands chevaliers.
Alors, ce qu'on ne retrouve pas dans les autres versions.
Voilà. Mais ce que Charles Perrault apporte de plus significatif au conte, c'est tout l'aspect féerique. On y découvre pour la première fois la marraine la bonne fée et bon nombre de détails magiques. Perrault introduit également pour la première fois la fameuse pantoufle de verre.
Ah, la fameuse pantoufle de verre.
Oui, et non de verre, V-A-I-R, hein, car en effet, il y a une controverse bien connue qui a été lancée par Balzac sur la composition des souliers de Cendrillon. Alors, Honoré de Balzac a prétendu corriger une erreur d'interprétation d'un homophone dans le conte de Perrault. Dans ses écrits, il souligne que les pantoufles de Cendrillon étaient en verre, donc V-A-I-R, qui est en fait le nom ancien de la fourrure du petit gris, et non en verre, V-E-2-R-E. Bon, alors c'est vrai qu'il est difficile de porter une vraie pantoufle de verre, V-E-2-R-E, mais bon, il s'agit d'un conte, alors gardons le merveilleux du verre, d'autant plus qu'on prouvera par la suite qu'il correspond bien à la graphie de l'auteur.
Alors Cendrillon est ensuite revu par les frères Grimm, dans une version beaucoup plus sombre et surtout beaucoup plus cruelle.
Oui, on est en Allemagne au début du 19e siècle. On est dans une époque très austère, on est en plein pendant les guerres napoléoniennes. Jacob et Wilhelm sont deux linguistes et philologues. Leur nationalisme en cette période de troubles va les pousser à constituer une collection de folklore qui va illustrer la culture germanique de l'époque. Leurs contes sont donc destinés avant tout aux adultes et donc pas seulement aux enfants. Cendrillon devient Aschenputtel.
Ah oui, c'est complètement différent.
C'est le nom que l'on donne à l'époque à la fille de cuisine chargée de nettoyer l'âtre. Alors, il n'y a plus de marraine la bonne fée, mais un noisetier sur la tombe de sa mère et sur lequel l'orpheline vient pleurer. Par la suite, c'est ce noisetier qui exaucera ses vœux. Alors, lorsque le prince fait essayer le soulier à toutes les jeunes filles du royaume...
En or, cette fois.
Voilà, en or, et pas en verre, V-E-2-R-E, ou en verre V-A-I-R. Donc, quand le prince fait essayer le soulier à toutes les jeunes filles, la première des méchantes belles-sœurs se coupe les doigts de pied, et la deuxième, le talon, pour pouvoir y faire rentrer leurs pieds.
Donc, c'est un peu plus trash.
C'est un peu plus trash. Et le prince va découvrir la supercherie aux bas ensanglantés qui dépassent de leurs souliers. Et alors enfin, à la fin, lors du mariage entre le prince et Cendrillon, ce ne sont pas des petits oiseaux chantants qui accompagnent le carrosse des mariés, mais deux pigeons qui crèvent les yeux des deux sœurs pour les punir de leur méchanceté.
Bah dites donc, c'est différent. Merci beaucoup en tout cas Gaëlle pour cette interview.